Métaphysique, 6 mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père, des aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Joseph.
Priez-vous.
Saint-Jean.
Priez-vous.
Le problème de l'individuation est-il du côté du taux d'Eti ou de l'Ecastone? Je ne veux pas entrer dans ce problème-là, c'est un problème très très délicat. On pourra discuter indéfiniment là-dessus. Le taux d'Eti, c'est l'individu, c'est Pierre. Pierre est un taux d'Eti. Alors, un taux d'Eti. Vous voyez bien, c'est un mot grec. Les castons, c'est chacun. Alors, je crois que l'individuation, c'est du côté des castons, pour moi. Le taux d'éthi, c'est le résultat, c'est Pierre. Je ne me pose pas le problème de l'individuation, c'est Pierre. Tandis que les castons, c'est chacun. C'est chacun, c'est ce que chacun est, dit en lui-même et distinct des autres. Vous voyez ? Donc c'est le problème de l'Ecastone, savoir ce que ça représente à lui, en quelque sorte, ce qu'il est en lui-même. Pourquoi les accidents autres que la quantité n'individualisent-ils pas? C'est tout le problème est là. C'est de savoir exactement ce que représente la quantité dans l'individuation. La quantité apporte, nous allons revoir, apporte la divisibilité. Alors, puisque la quantité apporte la divisibilité, la quantité, par le fait même, va... La technique. Puisque la quantité apporte la divisibilité, la quantité apporte, par le fait même, la possibilité d'être distinct des autres et être soi-même. Les autres accidents n'apporte pas cette distinction par rapport aux autres. Il faut essayer de comprendre ça progressivement avec le problème de la quantité. Alors vous verrez mieux une fois qu'on aura vu la quantité. Mais on est bien obligé de commencer l'individuation tout de suite pour comprendre ce que c'est que le pose. Mais les deux problèmes se tiennent. Peut-on dire que la quantité imparfaite, en tant qu'imparfaite, ne fait qu'un avec la matière pure puissante? Ah non! Quand on parle de la quantité imparfaite, on parle de la quantité déjà qui apporte une forme. La quantité est un accident distinct des autres accidents. Donc, elle a une détermination, la divisibilité. Le divisible n'est pas la materia prima. La materia prima, c'est la matière, c'est la pure puissance. Tandis que le divisible apporte une certaine forme. Une certaine forme, une certaine détermination. Alors, le divisible comme tel, c'est la matière imparfaite. Ce n'est pas encore la matière signata. Designata. Ne pourrait-on pas dire de même pour les autres accidents? Donc, on reviendra là-dessus progressivement. Je vais continuer de vous lire quelques passages de saint Thomas. Je crois que c'est important, étant donné que vous ne les lirez pas autrement. Alors, je vais pour être sûr qu'au moins vous ayez regardé ça, ça vous obligera de regarder et de lire attentivement ces passages qui sont quand même importants. C'est un gros problème. C'est un problème qui, évidemment, chez saint Thomas est traité au point de vue théologique, mais qui a tout un fondement au point de vue philosophique. Donc, je vous ai commencé de lire dans saint Thomas ce passage qui est important, de saisir ce que représente dans le De Trinitate Boës. Je dis, je reprends un tout petit peu avant. Je dis, en tant que tel, à cause de l'âme raisonnable, qui, d'une certaine manière et par elle-même, ce quelque chose, en caliquid, mais non pas en tant que forme. La forme devient cette forme du fait qu'elle est reçue dans la matière. Mais comme la matière en elle-même est indistincte, il est impossible qu'elle individue la forme reçue, si ce n'est en tant qu'elle est susceptible de distinction. Car la forme n'est pas individuée par le fait qu'elle est reçue dans la matière, si ce n'est pour autant qu'elle est reçue dans cette matière, distincte et déterminée à dic et nunc. Or, la matière n'est divisible que par la quantité. Voilà ce qui vous répond exactement à la question posée tout à l'heure. Mais ce n'est pas commode à comprendre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un texte difficile que je vous lis là. C'est un texte très difficile. Donc, il faudra le lire et le relire pour essayer de comprendre un peu ce problème. C'est un problème qui vaut la peine. C'est un problème intéressant. C'est évidemment pas l'induction, c'est autre chose, mais c'est un problème intéressant, c'est un problème sur lequel, au fond, saint Thomas a beaucoup insisté. C'est pourquoi le philosophe dit, au premier livre des physiques, que si la quantité est enlevée, la substance demeure indivisible. Donc la quantité apporte la divisibilité. Essayez de comprendre ce que c'est que la divisibilité, être divisible. Donc ça apporte la possibilité de partir de tout. La substance, au contraire, est au niveau d'un principe, et donc elle est indivisible. Et c'est pourquoi la matière devient cette matière et désignée, signata, selon qu'elle est sujet des dimensions. Or, ces dimensions peuvent être considérées de deux manières. Ça devient encore plus compliqué. Il y a toute une analyse que fait saint Thomas, et c'est très intéressant de voir la méthode qu'il prend, un peu une méthode réductive. Ce n'est pas du tout une induction, c'est tout simplement chercher à quel moment on est en présence de l'individuation. Qu'est-ce qui individualise? Qu'est-ce qui fait qu'on est en présence de cette réalité, au sens fort? Or, ces dimensions peuvent être considérées de deux manières. D'une part, selon leur détermination, ou leur termination, c'est ça, c'est ce qui termine. Et je dis qu'elles sont terminées selon une mesure et une figure déterminée. Et ainsi, elles se rangent dans le genre de la quantité comme des êtres parfaits. Considérées ainsi, elles ne peuvent être principes d'individuation. C'est là où vous avez un exemple de la grosseur ou de la diminution. Vous restez le même si vous grossissez, même si vous maigrissez. Au début du carême ou à la fin du carême, c'est le même individu. Pourtant, il a perdu 15 kilos pendant le carême. C'est le même individu. Alors, vous voyez, la termination, la détermination n'est pas la même pour la mesure. Pas la même. Car puisqu'une telle détermination des dimensions varie fréquemment dans l'individu, il s'ensuivrait que l'individu ne demeurerait pas toujours le même numériquement. C'est ça qu'il faut saisir, que le même individu demeure le même numériquement. C'est ça l'individu. Il demeure le même numériquement. Donc substantiellement, il demeure le même. Il faut donc que l'individuation s'enracine dans la substance. L'individuation, ça fait partie de mon être. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, ce n'est pas un accident. D'autre part, c'est là toujours les deux extrêmes, vous voyez, c'est d'une part substantiel, d'autre part, ce n'est pas substantiel dans le sens que c'est quelque chose de constitutif Au niveau spécifique, c'est individuel. Je suis le même homme que mon voisin, qui cependant individuellement est un autre. Et nous avons la même espèce. Donc, au point de vue spécifique, nous avons la même espèce. Et cependant, au point de vue individuel, on est différent. Et cette individuation s'enracine dans le chiffre de l'homme, qui reste le même, dans tout son développement. C'est quand même très extraordinaire, ça. C'est un problème très extraordinaire de voir ce que représente l'individu dès le premier instant de sa conception. Il demeure toujours le même, comme individu. Et il se développe de façon étonnante. Et chacun, nous développons de façon individuellement, de façon unique. Donc, d'une autre manière, on peut les considérer sans cette détermination. Vous voyez, ça, c'est assez astucieux de la part de saint Thomas d'avoir bien saisi que la quantité peut se regarder de deux manières. Et toute la difficulté est là. La quantité peut se regarder de deux manières. Elle peut se regarder concrètement telle qu'elle existe selon sa détermination actuelle. Vous pesez tant de kilos actuellement. Demain, ayant jeûné, vous peserez un peu moins. Vous n'avez pas changé votre individuation. Et cependant, vous avez maigri. Donc, la quantité n'est plus terminée de la même manière, mais c'est la même quantité. Alors, vous voyez les deux aspects de la quantité. D'une autre manière, on peut les considérer sans cette détermination, dans leur seule nature de dimension, bien qu'elles ne puissent jamais être sans une certaine détermination. C'est bien, elles ne peuvent pas exister autrement. Comme la nature de la couleur sans la détermination du blanc ou du noir, considérée ainsi, elle se situe dans le genre de la quantité comme quelque chose d'imparfait. Et c'est à partir de ces dimensions non terminées que la matière devient désignée, signata. Et ainsi, elle individue la forme. Et ainsi, à partir de la matière, est causée une diversité numérique dans la même espèce. Donc, c'est la matière liée à la quantité, au divisible. Mais le divisible peut se comprendre de deux manières. Il peut se comprendre en tant qu'idée reçue dans cette matière qui elle-même est informée par cette forme substantielle. L'âme spirituelle qui informe ce spirituel. Et donc, le divisible est terminé. Il est terminé, c'est-à-dire il est actué. Mais ce qui individualise, c'est le divisible. C'est pas en tant qu'il est terminé. C'est ça qu'il faut saisir. C'est pas comment. Je suis d'accord que c'est assez difficile à saisir. Parce que c'est essayer de comprendre ce qu'il y a de très particulier à la quantité. Elle permet d'être distincte des autres. Elle permet d'être reliée à la forme substantielle par la matière. Vous voyez, donc il y a trois choses qui concourent à l'individuation. Il y a trois choses qui concourent à l'individuation. La forme, la matière, la quantité. Ce qui structure le pense, le comment de l'individuation, c'est les trois. Les trois sont absolument nécessaires. Alors, en plus, viendra l'originalité de l'individu, toutes ses qualités, mais ce n'est pas ça qui individualise. L'individuation est quelque chose de beaucoup plus radical. Parce que si je disais que c'était les qualités, les accidents, alors l'individuation serait accidentelle. Alors, elle n'est pas accidentelle, elle est substantielle. C'est le pos de l'ousia. C'est la manière d'être de l'ousia. Donc si c'est la manière d'être de l'ousia, c'est une manière d'être substantielle à l'individu. En tant qu'individu, c'est tout mon être qui est pris. Donc c'est une manière d'être substantielle. Alors, il faut comprendre que la quantité, c'est l'accident le plus radical. Il est donc évident, vous êtes tout à fait compris, il est donc évident, c'est saint Thomas qui dit ça, il est donc évident que considérée en elle-même, la matière n'est principe de diversité ni spécifique ni numérique, mais comme elle est principe de diversité générique, en tant qu'elle est soumise à la forme commune, ainsi, elle est principe de diversité numérique en tant qu'elle est soumise aux dimensions non terminées. Et ainsi, et saint Thomas dit que c'est évident, peut-être, tout à fait évident, et ainsi, puisque ces dimensions sont du genre des accidents, la diversité numérique se réduit tantôt à celle de la matière, tantôt à celle de l'accident, et ceci en raison des dimensions susdites. Les autres accidents ne sont cependant pas principes d'individuation, mais principes de connaissance de la distinction des individus. Et par là, l'individuation est attribuée aussi aux autres accidents. Alors, dans la perspective de saint Thomas, le principe d'individuation, j'emploie le terme principe d'individuation tout en comprenant bien qu'il ne faut pas l'employer au point de vue philosophique. Mais saint Thomas l'emploie, on l'emploie par respect pour saint Thomas. Bon, dans la perspective de saint Thomas, le principe d'individuation ne peut se prendre de la forme, car toute diversité dans la forme entraîne une diversité spécifique. Ça, c'est très net pour saint Thomas. Donc, de la forme substantielle, comprenez bien. Il ne peut pas non plus se prendre en premier lieu des accidents. Ceux-ci ne peuvent par eux-mêmes être principes d'unité individuelle substantielle, car ils ne peuvent être à l'origine que d'une certaine diversité accidentelle. Donc, vous voyez, on élimine, procédé réductif. Cependant, la matière considérée en elle-même ne peut pas non plus diversifier, puisque en elle-même, elle est pure puissance, et que celle-ci est source de toutes les confusions et non source de distinction. La matière est source de toutes les confusions comme la puissance. Hein. Tout ce qui est en puissance est source de confusion. Quand vous voulez mettre la pagaille, vous enlevez toutes les déterminations. Alors à ce moment-là, vous êtes dans la pagaille complète. Hein. Eh bien, la matière, elle est source de toute indétermination. Et c'est pourquoi il faut préciser que c'est la matière en tant qu'affectée par les dimensions, c'est-à-dire la matière en tant qu'elle implique la quantité, les dimensions viennent de la quantité, qui est principe d'individuation, principe d'unité numérique et de multiplicité. On ne voit pas, tout simplement, on ne voit pas ce qui peut individuer un individu en dehors de la matière et de la quantité. Cherchez, vous trouverez ça, c'est très intéressant à chercher. Il faut chercher d'où ça vient. Et comme c'est une méthode réductive, vous voyez, et c'est ça qui montre bien que ce n'est pas un principe. Ce qui montre bien, c'est la condition sine qua non. Quelle est la condition sine qua non pour qu'il y ait principe, pour qu'il y ait individuation? Quelle est la condition sine qua non? Donc ce n'est pas du tout un principe qu'on cherche, c'est une manière d'exister. Ces dimensions qui affectent la matière et lui donnent sa diversité ont par elles-mêmes une raison d'individuation selon leur position relative au tout, leur situs. La position relativement au tout ne peut être qu'une différence d'ordre quantitatif. C'est ce que saint Thomas lui-même précise en répondant à la troisième objection qui prétendait qu'aucun accident ne pouvait individuer. Voici ce qu'il dit, il est de la raison de l'individu d'être en lui-même indivisé et d'être distinct des autres, selon une ultime division. Oui, c'est bien aliquid. C'est pour ça que c'est bien ecastome. Oui, c'est bien ça l'individu. Il est de la raison d'être de l'individu, d'être en lui-même indivisé et d'être distinct des autres selon une ultime division. Donc, on est en soi indivisé et on est distinct des autres. C'est aliquid. Aliquid, c'est ça. Être un individu, c'est ça. On est en soi-même indivisé et on est distinct des autres. Or, aucun accident ne possède en lui-même la raison propre de division, si ce n'est la quantité, qui est le divisible. La quantité, c'est le divisible. C'est pourquoi les dimensions ont par elles-mêmes une certaine raison d'individuation selon leur situs déterminé, en tant que le situs est une différence de la quantité. Alors ça, c'est très intéressant, le situs. Le situs fait partie des prédicaments, des divers accidents qui viennent. Ainsi, la dimension possède une double raison d'individuation. L'une qui provient du sujet, comme n'importe quel autre accident, et l'autre qui provient d'elle-même, en tant qu'elle a un situs, en raison duquel, même en faisant abstraction de la matière sensible, nous imaginons cette ligne et ce cercle. On imagine cette ligne et ce cercle en supprimant le point de vue de la matière sensible. Et c'est pourquoi il convient bien à la matière d'individuer toutes les autres formes du fait qu'elle est soumise à cette forme qui possède par elle-même la raison d'individuation. De sorte que même les dimensions terminées, qui sont fondées dans le sujet déjà complet, sont individuées d'une certaine manière en raison de la matière individuée par les dimensions non terminées, pré-comprises, pré-intellectas dans la matière. Alors, vous voyez, saint Thomas ajoute le situs. Donc au fond, il y en aurait quatre. Il y aurait la matière s'appelle toujours à la forme, 3 et 4. Il y a quatre éléments nécessaires pour parler d'individuation. Pas du tout un principe, c'était le cocktail. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un individu? Tâtez-vous le pot. Et que vous n'êtes pas l'individu qui est à côté de vous. Bien évident, c'est quand on vous marche sur les pieds que vous savez que vous êtes un individu. Tant qu'on ne vous a pas marché sur les pieds, vous ne savez pas. Tandis que là, vous savez, attention, je suis là. Venez, vous êtes distinct des autres. Vous êtes distinct des autres, vous êtes individu. En vous-même, vous êtes unique. La raison tout à fait formelle de l'individuation, selon ce commentaire, et donc la matière en tant que soumise aux dimensions non déterminées, c'est-à-dire la matière quantifiée, car ces dimensions non déterminées ne semblent pas être autre chose que la quantité elle-même. Y ajouter le situs. Le situs étant quelque chose qui vient, en quelque sorte, permettre à la quantité d'être actuée. Pour mieux saisir la pensée de saint Thomas, rappelons-nous ce texte de la question De Anima, où saint Thomas se demande si l'âme est unie à la matière corporelle par un intermédiaire. Intéressant, dans De Anima. Alors, je vous lis ce texte. Comme vous n'en avez pas la traduction, il vaut mieux que vous l'ayez ici. Alors, c'est dans le De Anima, article 9. Le De Anima est un opuscule de saint Thomas. de ce que la matière est constituée dans l'essai corporel par les formes, il découle immédiatement qu'il y a en effet des dimensions par lesquelles la matière est intelligée comme divisible en diverses parties, de sorte que, selon ces diverses parties, elle puisse être apte à recevoir diverses formes. Et en outre, de ce que la matière est comprise, intelligitur, comme constituée dans un certain essai substantiel, elle peut être comprise comme apte à recevoir les accidents par lesquels elle est disposée à une perfection ultérieure, selon laquelle la matière est rendue propre à recevoir une perfection ultérieure. Or, de telles dispositions sont pré-comprises, pré-intelligentur, dans la forme comme induite par l'agent dans la matière. Bien qu'elles soient des accidents impropres de la forme, accidents qui ne sont causés dans la matière que par la forme elle-même. C'est pourquoi elles ne sont pas comprises dans la matière avant la forme comme des dispositions, mais plutôt la forme est comprise avant elle comme la cause antérieurement, comme la cause antérieure aux effets. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre le divisible dans la matière sans que la forme. C'est ça que ça Thomas souligne. La matière comme telle n'est susceptible de recevoir le divisible que grâce à la forme. Donc grâce à l'âme. Ou la présence de l'âme. C'est très intéressant parce que ça prouverait, vous voyez, au point de vue philosophique, que le chiffre de l'homme que nous voyons dès le premier instant montre que l'âme est présente. On verrait que biologiquement, puisqu'on dit que le chiffre de l'individu est dès le premier instant de la conception, c'est les dernières découvertes génétiques, donc l'âme est présente. Métaphysiquement, c'est impossible de comprendre ça. C'est très plus intéressant. Très intéressant à ce point de vue-là. Parce que l'individuation ne peut pas se comprendre autrement que par le point de vue de la quantité, et une quantité qui donne la possibilité des divers accidents, donc la possibilité de la croissance. Parce que le premier instant, il demande de croître. C'est la quantité qui permet la croissance. S'il n'y a pas la quantité, il ne peut pas y avoir de croissance. Alors, une quantité qui est là présente, une quantité qui implique donc des dimensions possibles de se développer, et en même temps, quelque chose de déterminé, qui vient de là. Ce texte précise que les dimensions sont pré-intellectées, donc sont pré-comprises, pré-intellectées, dans la matière, en tant que l'agent les lui communique. Aimé Forest commente, vous savez que Aimé Forest est celui, c'est ce thomiste qui a beaucoup, beaucoup réfléchi sur les castors, l'être concret. Il a écrit un livre sur l'être concret qui reste très intéressant et qui est quelqu'un qui est merveilleux comme intelligence du texte de saint Thomas. Aimé Forest commente, la quantité qui individualise la matière, ce n'est pas la quantité qui est en elle, en acte, c'est la quantité que l'agent va imposer à son effet. Car il est évident que la matière de soi est commune et indivisible. Elle ne devient principe de distinction que par son rapport à la quantité, et ce rapport même est la nature exacte de la puissance, que la matière dans un composé primitif fournit à l'agent, lorsque celui-ci la transforme en un composé nouveau. C'est saint Thomas. Il est donc impossible de prendre à part la puissance de la matière et sa relation à la quantité. Dire qu'elle est en puissance, c'est dire au contraire qu'elle exige telle quantité. S'il en est ainsi, la matière devient à la fois le principe de l'individuation de l'être et de sa distinction par rapport à tous les autres accidents. Radicalement, c'est la matière. Ça ne peut pas être autrement. S'il s'agit de considérer l'individu concret existant, on parle alors de materia signata, cette matière que l'on peut désigner et qui implique nécessairement les dimensions déterminées. Cela permet de mieux comprendre comment l'individu est ineffable. On ne peut le définir précisément parce que la matière individuelle, avant tous les accidents qu'il individu, n'entre pas dans la définition d'espèce. C'est vrai, l'individu est ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir. C'est ça que ça veut dire. Chaque individu est ineffable. Vous avez la chance d'être ineffable. Et quand quelqu'un veut vous définir, vous pouvez toujours dire « Ah non, vous ne m'avez pas défini. » On ne peut pas être un numéro dans une série. L'individu est ineffable. C'est merveilleux, ça, de comprendre qu'il y a quelque chose d'ineffable dans l'individu de chacun d'entre nous. Et que, par le fait même, on ne peut pas nous mesurer. Et ceci, c'est parce qu'on s'enracine dans la matière. C'est ineffable par le bas, vous voyez. Dieu est ineffable d'une autre manière. Dieu est ineffable par l'acte pur. Nous, nous sommes ineffables grâce à cette matière signata. Cette matière qui est déterminé par la quantité. Cela permet aussi aux théologiens de mieux saisir que le singulier et la nature ne se distinguent pas en Dieu. Le mystère de sa simplicité. En Dieu, son être même est pleinement original et pleinement individuel. Sans la matière. Le concret et l'abstrait, lorsqu'il s'agit de l'être divin, ne se distinguent plus. C'est ce que nous avons vu à propos de la simplicité. Tandis que pour nous, le concret et l'abstrait se distinguent toujours. Alors voilà, je crois, ce qui nous permet de comprendre un peu la position de saint Thomas. Vous voyez, ce n'est pas facile à saisir. Ce n'est pas facile à saisir du tout, ce problème de l'individuation. Je crois que ça reste un problème intéressant que nous devons regarder. Alors, on pourrait regarder tout de suite après saint Thomas. On va tout de suite regarder ça, mais très très rapidement. Après saint Thomas, on trouve chez les théologiens des tendances diverses concernant ce problème de l'individuation. Je les note rapidement. Chez Don Scott, qui critique et rejette la théorie de saint Thomas, l'individuation se fait par une entité individuelle. Entitas individualis. Il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Qui n'est ni la matière, ni la forme, ni le composé. En tant que l'un ou l'autre de ceci est une nature. Cette entité individuelle ou singulière est la réalité ultime de l'être. Vous voyez, au fond, Don Scott veut retrouver un principe. Alors il met une entité individuelle, c'est comme un principe sous-jacent qui fait l'individuation. Tandis que pour saint Thomas, c'est un amalgame, le composé individuel. C'est la matière, c'est la forme, c'est la quantité, c'est le situ. Tout ça est impliqué dedans. Donc c'est vraiment un pose. Mais un pose très unique, celui de la substance. D'une substance impliquant la matière. D'une substance composée. Tandis que chez Don Scott, alors immédiatement après saint Thomas, et ça, la position de Don Scott, il faut au moins avoir compris un tout petit peu que c'est une entité individuelle ou singulière. Elle est la réalité ultime de l'être qui est matière, forme ou composée. de telle sorte que n'importe quoi de commun et cependant de déterminable peut être encore distingué si une que ce soit la réalité en plusieurs réalités formellement distinctes, dont formellement celle-ci ne soit pas celle-là. Mais celle-ci est formellement une entité singulière et celle-là formellement une entité de nature. Alors vous n'y comprenez plus rien du tout, n'est-ce pas ? Vous voyez que c'est quelque chose qui vient s'ajouter, c'est ce qu'on appellera l'etcheitas. L'etcheitas de Don Scott, c'est justement cette forme ultime qui est l'ultime actualité de la forme. Et c'est ce qu'il appelle l'etcheitas. Un mot qu'il a inventé, qu'il a fabriqué lui-même, pour montrer que, on voit très bien comme position, l'individu, au fond, chez Don Scott, est identifié à la personne. Puisque l'individu est identifié à la personne, c'est ce qu'il y a de plus actuel en nous. C'est ce qu'il y a de plus actuel en nous, ça ne peut pas se fonder dans la matière. Ça ne peut pas se fonder dans la matière, dans la quantité. Et donc, ça doit se fonder dans la forme. Alors, c'est l'originalité ultime de la vie. C'est pas la peine de regarder autre chose pour Suarez, hein, c'est quand même intéressant Suarez. Mais Don Scott, donc, il s'intéresse, vous voyez, c'est propre, c'est le réalisme de Saint-Thomas, la matière et la quantité. Chez Don Scott, on voit très bien l'idéalisme, la gabrielité. Hein, pensez à la gabrielité. Au fond, chez les anges, la forme individualiste. Chez nous, non. Et vous comprenez que c'est très difficile de dire que c'est l'ultime actualité. Parce qu'alors, c'est quelque chose de spécifique. Donc, j'ai quelque chose en moi qui est spécifique et qui me distingue des autres hommes. Donc, chaque individu devient à lui-même sa propre espèce. S'il fait jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est inacceptable. Je ne peux pas dire que l'individuation vient d'elle. Comme une forme qui vient s'ajouter comme ultime actualité de la forme. Parce que c'est l'ultime actualité de la forme, c'est un principe. Et donc chacun d'entre nous, nous avons un principe distinct qui nous distingue des autres et qui fait que nous, on est une autonomie absolue. Pour Suarez, le principe d'individuation des substances matérielles ne peut être la materia signata, affectée par la quantité. Après avoir montré pourquoi les raisons qui fondent cette célèbre opinion lui paraissent l'autorité mise à part de peu de poids. C'est Suarez qui dit ça. Hein. Vous voyez comme il renvoie saint Thomas hein, dans le fossé. Il faut pas oublier, c'est intéressant quand on dit que Suarez est thomiste. Hein. Un des aspects les plus importants de saint Thomas, c'est ça. C'est les castors. C'est quand même très très important. Parce que c'est le jugement dernier du philosophe, l'existence. Alors il dit ça, c'est intéressant à se rappeler comment Suarez met l'individuation dans le fossé, hein, avec beaucoup de, et il fait ça avec beaucoup de vénération. Après avoir montré pourquoi les raisons qui fondent cette célèbre opinion lui paraissent l'autorité mise à part, c'est extraordinaire, l'autorité mise à part, de peu de poids, il déclare vouloir néanmoins voir s'il vaut la peine d'essayer de la défendre en raison précisément de l'autorité d'Aristote et de saint Thomas. Après avoir minutieusement exposé tous les arguments qui vont à l'encontre de la doctrine de l'individuation par la materia signata, Suarez se pose la question: est-ce la forme substantielle qui est principe d'individuation des substances matérielles? S'appuyant sur l'affirmation d'Aristote, selon laquelle la forme est ce qui constitue le taux des dits, forma esse qui est constituit hoc aliquid, il affirme que le principe d'individuation doit être ce qui constitue intrinsèquement cette substance et qui lui est le plus propre. Il doit donc être quelque chose de substantiel et ne peut être la matière. Celle-ci, en effet, n'est pas ce qui est le plus propre à l'individu, puisqu'elle peut être sous toutes les formes. Donc, c'est la forme qui est le principe de l'individuation. Vous voyez ton Scott ? Très, très curieux. Ça, c'est très intéressant. Hein. C'est intéressant parce que Suarez joue un rôle très important, c'est lui qui est à l'origine de toute la scolastique décadente. Donc, il joue un rôle très important. Et on voit très bien que là, il n'a pas saisi du tout qu'est-ce que c'était que la position de saint Thomas par rapport à la materia signata. De plus, et là, c'est à saint Thomas que Suarez se réfère, le principe d'unité doit être le même que le principe d'identité. Idem est principium unitatis, quod entitatis. Puisque comme l'affirme saint Thomas, alors on se sert de saint Thomas pour fusiller saint Thomas, vous voyez, c'est bien ça. Puisque comme l'affirme saint Thomas, avec tout le respect qu'on lui doit, « Unum quodque secundum idem habet esset individuationem. » Ça, c'est la phrase de saint Thomas. « Chacun, selon la même chose, a l'esset et l'individuation. Or, c'est de la forme que toute réalité tient son esset. C'est donc aussi de la forme qu'il tient son unité individuelle. L'unité n'ajoutant à l'ens, à ce qui est, qu'une négation ne peut avoir d'autres principes positifs et réels que ce qui est principe de l'entité elle-même. » Donc, il ramène, hein, et c'est ça qui est intéressant à voir, il ramène l'individuation à la forme substantielle. Après avoir dûment réfuté les objections que peut soulever cette thèse, Suarez conclut que son opinion est satis probabilis, puisque c'est la sienne. Proxime quae ad veritatem accedit. Donc elle accedit, proxime ad veritatem. Et la résume en précisant que d'une façon absolue, la forme n'est pas principe plénier et adéquat de l'individuation des réalités matérielles, si l'on parle de leur entité totale, bien qu'elle le soit d'une façon tout à fait particulière. Et c'est pourquoi, à parler formellement, elle suffit à la dénomination de l'individu. Vous voyez, je crois que toujours l'erreur provient du fait qu'on oublie l'individuation. Je crois que c'est ça. L'erreur de Don Scott, l'erreur... Alors évidemment, saint Thomas, je suis d'accord, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait assez précis. Il n'avait pas dû employer le mot principe. Alors, comment sauver saint Thomas ? Sauver saint Thomas. Sauver saint Thomas. Alors, principium chez saint Thomas, comme chez Aristote, ça peut être le point de départ et pas un principe. Donc, il ne faut pas traduire principe d'individuation. Le point de départ de l'individuation, l'origine de l'individuation, c'est la materia signata. Alors tout est sauf. Vous voyez ? Parce que dans le pose, puisqu'il y a plusieurs éléments, j'ai tout à fait le droit de chercher quel est le point de départ. Et donc, principium devrait être traduit le point de départ. Vous voyez ? Alors si nous traduisons le point de départ, et c'est toute la scolastique décadente qui a traduit principium comme principe. Alors que si vous traduisez comme point de départ, ça va très bien. Le point de départ de l'individuation ne peut être que la materia signata. Et c'est vrai, puisque c'est à partir de là que les individus se séparent et se distinguent. Et le point de départ ne peut pas être la forme, puisqu'alors ce serait une division spécifique. Et ce ne serait plus une division numérique. Donc vous voyez, c'est curieux. Hein. Au fond, je crois qu'il y a une équivoque sur principium.